les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins traversent hein, pour cette émission d'une heure, 11h midi, en direct dans le studio de Chauvigny, aujourd'hui en compagnie d'Élodie Heurtebise. Élodie, bonjour, comment ça va?
Bonjour Francis, bonjour à tous, ça va très bien, merci.
Alors je demande souvent, hein, facile de se garer à Chauvigny un jour de marché, pas évident. Hein.
Bah oui, non, c'est vrai que ça amène beaucoup de monde.
Exactement, beaucoup de monde, sachant que la mairie a dû accorder des déviations un peu partout, on ne peut plus accéder par la ville ou ailleurs. On aura tout à l'heure, tiens, Jean-Luc Dorchivard, pardon, qui sera là présent, c'est le directeur de l'EPCC, hein, l'organisme qui gère l'abbaye de Saint-Savin, donc pour un petit moment ici avec nous, pour nous parler de l'exposition 2026. Élodie, vous êtes photographe, c'est bien ça?
Exactement.
Indépendante à votre compte?
Exactement, à Saint-Georges-les-Baillargeaux, oui.
Depuis combien de temps?
2011.
2011, ça fait maintenant quelques années. Alors c'est vrai que j'ai été surpris, moi j'ai regardé sur internet l'évolution un peu des photographes hein, en France, et on s'aperçoit que ça c'est bien reparti. Hein. Il y a une époque où à la fin de l'Argentique, on a une grande diminution, les magasins ont disparu, hein, les magasins qui sentaient bon, un peu la chambre noire et puis l'odeur de la pellicule, ces magasins ont disparu pour avoir des ateliers privés, je suppose aujourd'hui. Vous êtes en atelier privé?
Oui, j'ai pas de local, de studio. Moi, je travaille plus en extérieur. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le souvenir de la photo, c'est vraiment hyper important pour se remémorer toutes les émotions qu'on peut vivre à travers des événements ou même des paysages.
Exactement, oui. Alors c'est vrai que la photo aujourd'hui est devenue un peu jetable. Je veux dire, on la prend facilement, nous, avec notre smartphone. On n'a plus le même rapport avec la photo. Hein. La photo jaunie d'antan qu'on voyait sur l'album de papa, maman et grand-maman a un peu changé. C'est une passion pour vous, la photo? Vous êtes venue par...
Oui. Oui, c'est une passion depuis vraiment plusieurs années.
Ouais.
Et par contre, je suis autodidacte.
Autodidacte, ouais, j'allais dire, vous n'avez pas une famille.
Oui, non.
Pas du tout. On en parlait tout à l'heure en antenne. J'ai connu il y a quelques années un photographe, un vers chez vous, donc à Saint-Georges, qui ne doit plus y être, hein, c'est Monsieur Joubert d'ailleurs, qui s'est occupé de nos photos de mariage, entre autres. Donc voilà, c'est un métier, vous en faites vous aussi des photos de mariage.
Hein. Oui, tout à fait, des photos de mariage, de portraits de famille.
Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Vous êtes marié, des enfants peut-être?
Oui, mariée, deux enfants, deux filles.
Et tout ça vous laisse deux filles, ça vous laisse le temps en même temps d'écrire un livre, j'ai vu ça, donc 111 lieux à découvrir, à partager dans le Poitou, à partager, je suis un peu dans le désordre.
C'est l'ancien Poitou, donc ça regroupe la Vienne, les Deux-Sèvres et également la Vendée.
Exactement, c'est le vrai Poitou, on va dire, hein, celui
d'origine,
historique, oui. Voilà, celui qu'on aimerait tous revoir. Ça nous permettrait d'avoir celui de M. De Villiers en même temps, hein, le parc du Puy du Fou dans notre cher Poitou. Une région que vous connaissez bien, vous êtes né ici?
Je suis née dans la Vienne, oui, en Sud-Vienne, vers Valence du Poitou.
Très bien endroit aussi, Charroux et compagnie, avec, avec l'abbaye hein, qui est magnifique.
Hein.
Un très, très, très beau endroit. Qu'est-ce qui vous a amené à la photo? Vous êtes autodidacte, vous l'avez dit, mais c'est une passion par rapport au patrimoine, par rapport au paysage, par rapport...
Plus au paysage, oui, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. La lumière extérieure, tout ça, c'est vraiment les photos de paysage que je partage aussi sur ma page Instagram, ouais. hello.di.86, où il y a énormément de photos de paysage.
Un site internet aussi, je crois.
Oui, voilà, ça c'est dédié plus professionnel
exactement.
De toutes les activités que je propose.
Et puis sur Facebook aussi, on peut vous voir, vous suivre un peu. À propos de Facebook, tiens, je salue à nos amis de Rando 86 qui nous écoutent actuellement, qui nous écoutent régulièrement tous les week-ends, pour cette émission donc dédiée à la randonnée, parfois, pas toujours, mais parfois, aujourd'hui à la photo et puis au patrimoine. On aura tout à l'heure, je le disais, donc... Jean-Luc Dorchy, donc directeur de l'EPCC, hein, qui viendra nous rendre visite. Il est sur le marché actuellement, hein, mon petit doigt me le dit. Et puis surtout, j'ai eu un échange avec lui par rapport à cela. Voilà, pour ce qui est de l'émission. Vous êtes donc passionné de photos depuis quelques années. Vous avez fait un livre. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce livre? On vous a contacté? C'est vous qui avez contacté l'éditeur? C'est une collection, en fait, hein, qui existe?
Oui, c'est ça, c'est une collection. En fait, on m'a vu sur les réseaux sociaux. Et je tiens un blog voyage. Un petit peu aussi, donc j'aime écrire les découvertes que je peux faire en France et par chez moi, et c'est vrai que rappeler des lieux un petit peu sortir des sentiers battus dans notre territoire, c'est ce qui m'a vraiment plu sur cette collection-là.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir sur la Vienne et puis ailleurs. Mmh. Cette collection d'ailleurs regroupe pas mal d'ouvrages sur le Poitou, tant mieux avec vous, Élodie. Et puis en même temps, j'ai vu sur l'Alsace, le Bordeaux, sur les vins, même sur les fromages aussi, sur le saké, toute une collection. Mmh. Même la Suisse aussi, pas mal de découvertes. Comment avez-vous choisi les thèmes, enfin les différents lieux ?
Alors, il fallait que ça soit vraiment diversifié. Donc, il y a vraiment de tout. La nature, des paysages, il y a quelques musées, des artisans. Et c'est vraiment, vraiment diversifié.
Avec pas mal d'endroits. J'ai vu que vous parliez du triangle, ce que j'appelle le triangle d'or du Poitou, hein. Donc Chauvigny, Angle-sur-Anglin, Saint-Savin, et des visites. À chaque fois, vous êtes allé sur ces lieux les découvrir ?
Oui, exactement, voilà. Et des lieux que je ne connaissais pas forcément tous, donc c'était souvent des belles découvertes.
Ouais.
Donc aller à la rencontre de ces lieux, demander des renseignements sur... Par exemple, il y a des lieux qu'on peut connaître, mais qu'on ne connaît pas forcément l'histoire d'origine ou ce qui s'est passé ici. Mmh. Donc, c'était un petit peu le but de ce guide, de faire découvrir des histoires qu'on ne connaît pas forcément, des légendes aussi.
C'est ça, j'ai vu ça, oui, voilà. pas mal de légendes sur le secteur. C'est vrai que ça permet de les remettre au goût du jour, hein, avec de très belles photos, on peut le dire, hein, sur ce livre qu'on retrouve assez facilement. Alors, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés, moi, le trouver, parce qu'il y a eu une rupture, je pense, à Noël.
C'est possible.
Ouais, on avait du mal. Moi, je suis allé chez Bravard, on va le dire, à Chauvigny. Mais je pourrais vous parler de Leclerc ou autre, mais à Bravard-Chauvigny était en rupture donc à ce moment-là. Mais c'est vrai que tant mieux, c'est le succès en tout cas. Hein,
Oui, tout à fait, voilà. C'est vrai.
Un autre peut-être en dehors de la photo, en dehors de cette collection, peut-être d'autres à venir, des livres
C'est pas le projet immédiat, non,
il n'y en a
pas pour le moment en tête, c'est venu vraiment soudainement, je ne m'attendais pas du tout à faire ce genre de projet, mais qui sait, un jour peut-être, je ne sais pas.
Oh, c'est ça, okay. beaucoup de projets, c'est vrai que alors, j'ai été étonné, hein, je le disais tout à l'heure par rapport au métier, c'est que l'évolution en fait, hein, je peux comprendre que vous parliez de livres à travers un livre aujourd'hui, j'ai été étonné justement de voir l'évolution du métier de photographe, hein, moi j'avais cru qu'à la fin de l'Argentique tout allait disparaître. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a de plus en plus de photographes. Vous êtes aujourd'hui au niveau national 65 000. Vous étiez à la fin de l'Argentique à peine 25 000. Donc une recrudescence entre guillemets, une renaissance de la photographie. Vous êtes en contact avec une fédération, quelque chose comme ça, au niveau national, ou vous êtes vraiment indépendant ?
Oui, vraiment indépendante. Oui.
Vraiment indépendante. Et le but, c'est de le rester. Aucune ambition de créer une boutique ou autre au Peu de Saint-Georges-Joyeur ?
Pas pour le moment. C'est vrai que j'aime beaucoup bouger, donc moi je propose notamment d'autres activités de photographie sous des salons, même des expositions, des marchés un petit peu partout dans la Vienne, donc j'aime beaucoup bouger, c'est pour ça que j'ai pas de local, de studio fixe.
De studio fixe, ça viendra peut-être un jour, on ne sait jamais, pourquoi
bien
pas.
Sûr.
Petite question, tiens, ça a disparu, ça, les chambres noires où on développait les photos, je pense que...
Je pense qu'il y en a de moins en moins, effectivement, ça se raréfie vraiment.
C'est les petits amateurs qui font encore de l'argent.
Qui gardent vraiment, je pense, l'âme de la photo, mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins.
Aujourd'hui, c'est le numérique, hein, qui est plus facile d'ailleurs à retraiter, je suppose, on peut faire pas mal de choses. Justement, par rapport à ça, l'IA, l'intelligence artificielle, ça vous fait peur, aujourd'hui, on arrive à avoir des photos, je me mets à côté, je serre la main pratiquement à Macron et à Poutine en même temps. Si je le veux en photo, ça vous fait peur, ça ?
Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, mais c'est compliqué de se projeter effectivement avec l'IA.
Exactement, c'est vrai que c'est inquiétant pour nous, c'est inquiétant pour nos enfants aussi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On va se faire une petite pause musicale, tiens, puisque Jean-Luc Dorchy vient d'arriver en studio, on va se faire une petite pause musicale, on revient tout de suite après. Je parlais des enfants, je parlais de la difficulté avec les réseaux sociaux, on va s'écouter l'effet de masse et on revient tout de suite après.
Dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est masse qui nous casse et nous isole sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Élodie Hurtebise, un photographe, auteur, avec nous présente dans le studio. Et puis qui vient d'arriver, c'est Jean-Luc Dorchy, le directeur de l'EPCC, l'organisme qui gère l'abbaye de Saint-Sernin. Jean-Luc, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci pour votre invitation.
Ah bah c'est moi qui vous remercie d'être venu. On aurait pu se contacter par téléphone la semaine dernière. On peut comprendre qu'il y ait des fois des empêchements. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui de parler du thème qui est l'abbaye donc de Saint-Sernin, l'exposition 2026 qui débute prochainement.
Oui, alors c'est effectivement une exposition, mais c'est un peu plus, c'est le réaménagement des cellules les moines, qui sont donc qui n'ont pas bougé depuis 25 ans, alors avec un bel aménagement à l'époque, mais bon, on s'est dit que aujourd'hui il fallait proposer du renouveau régulièrement au public, à tous nos publics, et donc l'idée effectivement est de modifier, de transformer, de métamorphoser ces cellules monastiques en espace d'exposition temporaire, alors des expositions assez longues, d'une durée de 2 heures environ, qui viendront faire mieux connaître, découvrir de plus près et nous dire aussi ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, toutes les peintures, toutes les grandes scènes que l'on peut trouver dans l'abbatiale de l'abbaye de Saint-Savin. Donc toutes ces peintures du XIe siècle, de l'âge roman, le plus grand ensemble, je rappelle, de peintures murales de l'époque dite romane, 11e, 12e siècle, aujourd'hui conservées en Europe.
Exactement. Vous connaissez un peu, Élodie, l'abbaye de Saint-Savin pour l'avoir visitée, prendre des photos peut-être?
Voilà, exactement. Je me suis rendue sous les lieux pour l'écriture de ce chapitre.
Oui.
Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre dans le livre parce que je trouve que les Poitevins peuvent connaître ce lieu, mais n'ont pas été jusqu'à pousser les portes pour vraiment découvrir ces fresques en vrai.
C'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il est facile de même de rentrer les voir, elles sont gratuites si on veut les voir, mais on voit pas grand-chose en fait. Hein, quand on est en bas à 17 mètres, je vous mets au défi de voir quelque chose de cohérent. Il vaut mieux le faire en passant par l'abbaye qui est magnifique. Moi j'ai découvert l'abbaye comme ça, avec les cellules des moines, avec toute cette visite guidée, commentée, et puis surtout cette explication des fresques. Hein. On monte à l'étage d'ailleurs, alors je ne sais plus comment s'appelle cet étage.
La tribune.
La tribune, voilà, on monte à la tribune, et là on découvre véritablement quelque chose de différent, c'est magnifique là.
Bah oui, je pense que bon, ces images, ces peintures ont été réalisées dans un contexte déjà très éloigné, hein, ça fait 1000 ans presque. Oui. Elles sont codées, elles ont des significations symboliques extrêmement complexes. Elles étaient réservées à l'usage des moines, donc elles étaient conçues pour des savants à l'époque. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir un certain nombre de clés de lecture. Et c'est vrai qu'à la fois, nos propositions, c'est ce que propose le PCC, hein, à la fois les visites avec tablette, mais surtout, je le redis toujours, une visite avec un guide, qui est vraiment la meilleure façon de découvrir le site et de comprendre un peu de quoi il est question sur ces murs et ces voûtes, parce que c'est quand même extrêmement compliqué, hein. Tout le monde ne connaît pas la Bible en détail.
Tout à fait. Ouais.
C'est vraiment, toujours, les gens sont extrêmement satisfaits.
C'est vrai que la visite est magnifique à faire. Ça prend quoi, une heure peut-être de visite,
hein? La visite guidée dure une heure quinze. Et puis après, on a amplement de quoi faire dans le bâtiment conventuel, puisqu'on a réaménagé et muséographié l'année dernière le réfectoire des moines, avec l'ancien réfectoire des moines, donc avec notamment la possibilité de voir le dernier vestige, l'unique vestige de l'abbaye de l'époque médiévale, puisque cette abbaye de Saint-Savin, on vient voir un joyau du Moyen-Âge, mais ne reste plus, alors ce n'est pas rien, que l'abbatiale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ce qui constituait un grand ensemble monastique à l'époque médiévale a été, au fil des temps, à partir du XIVe siècle à peu près, détruit par les guerres, les invasions, les guerres de religion, des personnages aussi peu fréquentables. Et donc la partie conventuelle, c'est-à-dire les parties où les moines vivaient, est beaucoup plus récente, puisqu'elle date de la fin du XVIIe siècle. Donc on a redonné à voir aussi les vestiges de la salle capitulaire du XIIIe siècle, qui est vraiment l'unique vestige de ce qui, on ne sait pas très bien comment c'était, hein, parce qu'on n'a plus les archives, mais enfin, devait constituer une très grande abbaye de style roman et peut-être un peu gothique aussi.
C'est ça, tout à fait, avec une maquette d'ailleurs, on a une maquette, je crois, si j'ai bon souvenir, hein, d'une époque, alors qui est peut-être du 18e.
Alors, ce n'est pas une maquette, c'est un projet. Ouais. En fait, c'est un projet tel que, projet idéal de reconstruction, qui n'a pas été mené, c'est donc une vue cavalière, hein, qui n'a pas été menée à bout par manque d'argent, puisque à la fin du XVIIe siècle, l'argent n'était plus dans le Poitou, mais peut-être davantage à Versailles.
Et oui, c'est toujours la même chose, hein, l'argent est rarement dans le Poitou, maintenant il est rarement en France, il est difficilement en France déjà. Donc...
Il y était au XIe siècle, puisque l'abbatiale actuelle a été construite grâce au don, un don très important, d'une comtesse du Poitou, Aumaud et duchesse d'Aquitaine. Donc, à cette époque-là, le Poitou et l'Aquitaine étaient des États extrêmement puissants. Bon, c'était plus le cas au XVIIe siècle.
Et vous, Elodie, vous avez visité complètement l'abbaye avec les cellules des moines ou simplement la...
Non, j'ai malheureusement pas pris eu le temps lors de la réalisation du livre.
Il y a 111 lieux, donc ça se comprend.
Mais effectivement, une sortie en famille est à faire. C'est vrai que je me suis noté ça. C'est vraiment enrichissant.
Exactement. Et c'est vrai que c'est l'occasion, hein, puisqu'à partir du début février, on a l'exposition 2026, donc qui devrait peut-être démarrer.
Ça ne sera pas début février.
Ah, un peu de retard ou
plutôt...
de...
Non, ce n'était pas prévu d'ailleurs pour début février. Ce sera plutôt de début courant avril, voilà, pour le printemps, pour le renouveau autour des fêtes de Pâques, puisqu'en plus symboliquement, à l'époque médiévale, enfin au XIe siècle, l'année recommençait. Le début de l'année était à Pâques, c'était les fêtes les plus importantes. On a également... une partie très importante dans la tribune, notamment consacrée à la Passion du Christ. Donc, on s'est dit que c'était finalement assez intéressant symboliquement de marquer ce renouveau aussi de ces cellules qui, certes, sont intéressantes telles qu'elles ont été conçues il y a 25 ans, mais qui attirent un peu moins l'attention. Donc, les choses vieillissent. Et puis, moi, ce que j'ai imaginé, c'est aussi de proposer à des artistes d'aujourd'hui. Il y a 25 artistes vivants dans cette présentation, dans cette exposition qui va durer 2 ans, sur le déluge et l'arche de Noé, qui est la peinture sans doute la plus emblématique des peintures de Saint-Savin. Donc aussi à des artistes d'aujourd'hui de venir s'approprier, commenter, raconter leur déluge. Donc ça, c'est un aspect très important avec beaucoup d'artistes et beaucoup de points de vue différents.
Voilà, et une mise à contribution de la population. Vous avez lancé un appel, hein, pour des objets. D'ailleurs, Elodie, si vous avez des petits chatons en plâtre ou des vases, je pense que Jean-Luc est preneur. Et pas que Jean-Luc, d'ailleurs, hein, on parle de vous. Il y a Isabelle Soulard aussi que je salue, qui nous écoute peut-être aujourd'hui. Donc oui, vous lancez un appel pour... à la population locale.
Voilà, l'idée c'est aussi de... Bon, l'exposition, elle est ouverte au grand public, elle raconte des choses compliquées, puisque les origines de la, du récit du déluge, d'ailleurs qui ne sont pas bibliques, hein, puisque cette histoire de déluge apparaît bien avant l'écriture de la Bible en Mésopotamie, dans les civilisations babyloniennes, comme on dit. Montrer aussi que ce récit de déluge d'une puissance supérieure qui, à un moment donné, parce que l'homme ne se comporte pas bien ou parce qu'elle est fâchée, va l'anéantir par les eaux. Ça se retrouve partout dans le monde, dans toutes les civilisations. Donc on va raconter tout ça. Donc ce sont des choses qu'il faut essayer de raconter le plus clairement possible à un public le plus large possible. On va parler bien sûr aussi de bateaux, on va parler d'animaux, puisque l'Arche de Noé, c'est vraiment un mode de représentation des animaux. Et donc, dans cette représentation des animaux, on s'est dit, on va aussi essayer d'impliquer le public, d'impliquer la population et de leur proposer de participer à l'exposition, effectivement, en prêtant des objets en forme d'animaux. Alors, il ne s'agit pas de prêter des œuvres d'art, hein, ça peut être des objets vraiment du quotidien. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on a des formes d'art, je veux dire, nobles, etc., mais que l'art populaire, et puis la céramique, etc., et puis tout simplement les objets du quotidien s'emparent aussi de thèmes comme cela, donc la représentation animale. Donc si vous avez un magnifique pot à eau en forme de tigre ou je ne sais quoi, eh bien, effectivement, nous sommes preneurs, et comme ça, tout le monde participera à l'exposition et aura la possibilité de la visiter gratuitement.
Exactement. Un bon moyen aussi de prendre des photos, je suppose, hein, Élodie, à ce moment-là, de découvrir les lieux. Et puis, vous allez être charmé par le lieu de l'abbaye, forcément, quoi.
Exactement.
Voilà, donc on rappelle que ça, c'est au mois d'avril. Donc
voilà, début avril, on va dire, ouais. Prudemment. Parce que...
Ce qui va correspondre à peu près, je pense aussi, à la mise en... l'inauguration, on va dire, de ce que j'appelle le triangle d'or du Poitou, hein, puisqu'on est à peu près dans la même période, avec donc Chauvigny Angle sur Anglin, Saint-Savin. Hein, Chauvigny, donc c'est forcément l'abbaye classée au patrimoine mondial. Saint-Savin, c'est le roc aux sorciers et la forteresse. Chauvigny, bien évidemment. La cité médiévale, donc un secteur qui est appelé à se développer. Combien de visiteurs tient l'abbaye l'année dernière?
Plus que l'année précédente. Hein. Très belle année, hein, puisque ouais. Nous sommes passés de 23 000 en 2024 à 28 000 en 2025.
Oui, voilà.
Donc il faut transformer l'essai et aussi toujours renouveler, justement. On renouvelle aussi. On a beaucoup renouvelé des visites familiales, un peu plus ludiques, notamment une visite musicale qu'on remet en place, mm-hmm. et qui a beaucoup de succès, qui permet de remonter l'histoire de l'abbaye avec une musicienne, Evelyne Moser, depuis le 19e siècle jusque le 9e, hein, avec un coup de trompe ou d'olifant qui évoque Roland, puisque Charlemagne est représenté. Charlemagne, donc, un des supposé fondateur de l'abbaye, est représenté dans les peintures. Et on a aussi un escape game qui marche pas mal, donc dont le thème est un personnage peu recommandable, un certain Baron des Francs, Henri de Nuchesse, Baron des Francs, qui, au début du XVIIe siècle, a investi l'église abbatiale, a littéralement terrorisé toute la région et a transformé l'abbatiale en place forte pour se faire arrêter finalement par les hommes de Richelieu et finir à la Bastille. Donc l'escape game tourne autour de cette famille de Neuchèze qui a beaucoup marqué, pas forcément positivement, l'histoire de l'abbaye.
Voilà, d'autres marqués aussi, hein, l'histoire du Poitou, hein, pas forcément très de façon très joyeuse. Hein. Je parle notamment aux anciens soldats ou accompagnateurs de Jeanne d'Arc, hein, en parlant de Laïr, hein, donc qui est enterré donc à Montmorillon. Partir de Saint-Savin, c'est aussi aller se diriger vers la Vallée des Fresques. Un bel endroit, un beau lieu à découvrir avec la descente ou la remontée, je ne sais plus dans ce sens-là, on la remonte d'ailleurs, la Gartempe, en direction de Latu.
Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, le PCC a pour mission de valoriser... Ces magnifiques sept sites, alors tous ne sont pas visibles malheureusement, oui, mais justement, on va pouvoir à nouveau montrer la Maison Dieu à Montmorillon, notamment la chapelle Saint-Laurent qui était fermée jusqu'à présent, Et qui est vraiment recouverte de peintures du 19e siècle, donc qui témoignent de la piété au 19e siècle. Mais enfin, on n'est pas loin non plus de la bande dessinée Ligne Claire, hein, quand on voit ces peintures très colorées. Vous avez tous les saints du paradis, etc. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Et puis effectivement, ben les églises les petites chapelles de Jouer, Antigny, qui est en partie fermée là. Et c'est une bonne chose parce qu'on est en train de restaurer... son clocher, sa voûte, la voûte de son cœur. On a trouvé argent pour le faire, donc c'est une très bonne chose. Et vous avez également la petite église de Saint-Germain. Donc là aussi, ben, on développe une programmation. Il y aura des visites de des sites, il y aura des descentes en canoë, il y aura des visites musicales aussi. On fera des choses pour la fête de la musique dans les communes concernées.
On parlait donc de la vallée des fresques. C'est un secteur que vous avez aussi développé avec votre livre ?
Non.
En montant sur Montmorillon,
vous voulez dire, Oui. J'en ai effectivement parlé dans le chapitre de cette vallée, mais c'est vrai que ça pousse à la découverte de ce territoire vraiment, ce qui doit être très enrichissant.
Exactement, une
vallée. C'est la vallée de la Gartempe, qui se transforme et qui passe d'une rivière limousine un peu plus tourmentée à une rivière, je dirais presque de la Loire, enfin beaucoup plus douce.
Exactement, qui pourrait être classé peut-être un jour, on l'espère en tout cas, de façon à la défendre un peu mieux. Le secteur, vous le connaissez donc un peu, vous aussi le dites, on parlait de Saint-Savin, vous êtes aussi allé du côté d'Angle-sur-Anglin et de Chauvigny, donc pour regarder ces communes. Vous les avez découvertes à ce moment-là, vous les connaissiez un peu avant, peut-être un peu ?
Oui, je les connaissais bien, comme je suis originaire de la Vienne. Et que j'aime bien bouger, je connaissais.
Exactement. Et c'est vrai que dans votre livre, hein, 111 lieux à découvrir dans la Vienne, on a énormément de lieux, que ce soit des lieux religieux, on a des abbayes, on a des églises, mais on n'a pas que ça. On a aussi des histoires un peu différentes. Hein. On parle de légendes quelque part. Hein. C'est pas uniquement basé sur du patrimoine.
Non. Il y a vraiment de tout. Il y a à Chevigny notamment une dame qui fabrique des bijoux en papier.
Oui, tout à fait, ou en vilote.
Voilà, exactement. Et après, il y a plein de sentiers à découvrir en nature, les grottes aux fées, plein de lieux à découvrir différents.
Ça a beaucoup de lieux, que ce soit à Saint-Savin, que ce soit à Chauvigny, Angle-sur-Anglin, et dans l'ensemble du Poitou. Je parle de Saint-Savin parce qu'on a la Vigne aux Moines, énormément de sentiers de randonnée, pour nos amis de Rando 86. Vous pratiquez un peu la randonnée l'un et l'autre ?
Moi, c'est plus la marche, assez régulièrement, effectivement. Je ne sais pas si on peut appeler ça randonnée.
Mettre un pied dans l'autre, c'est déjà partir en randonnée.
Assez régulièrement. Et puis c'est vrai que la communauté de communes Vienne et Gartempe est extrêmement riche. En chemin. Alors là, vraiment bien entretenu. Enfin, il y a vraiment un contexte extrêmement positif pour marcher, découvrir des paysages très différents, soit plus du côté de la vallée, parfois sur le plateau, dans les bois. Enfin, c'est vraiment, on est très très riche.
Exactement.
En la matière.
Voilà, du côté du Peu de Saint-Georges aussi, on est à la forêt de Moulières, pas très loin.
Alors, oui.
On peut se poser la question, pourquoi choisir le Peu de Saint-Georges pour aller s'installer, justement, par rapport à la forêt de Moulières.
Oui, c'est vrai que la nature, ça apporte vraiment quelque chose c'est toujours agréable de randonner un peu partout dès qu'on peut.
Exactement, on va se faire une petite pause musicale, on reviendra tout de suite après. On va s'écouter une chanson qui a un peu de rapport avec la photo, on va dire, hein, puisqu'on est toujours gêné quand on prend des photos avec le soleil, hein, c'est un peu compliqué parfois. On va s'écouter Soleil Bleu Louisa et on revient tout de suite après.
demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation? Et je dis, oh, laisse-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Élodie Ortebiz pour son livre « 111 lieux dans le Poitou à ne pas manquer ». C'est chez quel éditeur ?
Immense.
Et on le retrouve facilement en librairie, hein, au moins sur commande d'ailleurs. J'ai vu qu'il était à la FNAC et autres.
Hein, oui, voilà, FNAC, Cultura et dans beaucoup de librairies indépendantes.
Voilà, sauf bien évidemment chez nos amis de Bravard qui étaient en rupture. Et c'est bon signe, hein, au moment
ça
de,
va revenir.
Au moment de Noël. On en parlait pendant la pause, peut-être qu'on le retrouvera bientôt d'ailleurs à l'abbaye de Saint-Savin, dans la boutique. Parce que c'est vrai qu'une boutique qui est intéressante, hein, à l'abbaye de Saint-Savin, c'est pas seulement des objets qui nous viennent de Chine, hein, c'est autre chose.
Hein. Ah non, surtout pas. Beaucoup de produits locaux, voilà. Et puis c'est un lieu oui, auquel penser, on le redit toujours, notamment au moment des fêtes, mais à d'autres moments, pour faire des cadeaux. Pour,
oui, tout à fait. Ouais.
C'est dans un territoire bon, qui rural, une belle boutique, effectivement, avec bien sûr des objets liés au site, mais aussi bien au-delà, et puis des produits alimentaires.
Exactement, avec beaucoup de choses, beaucoup de visiteurs aussi, on l'espère, pour cette année. Il y a un travail énorme qui a été fait, hein, par vous, par toute votre équipe, par Isabelle aussi, Soulard, hein, que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, et qui participe au fait de faire venir pas mal de journaux. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un article de Marie-Claire, hein, sur Angle sur Angle, hein, notamment cette semaine, et puis d'autres sur l'abbaye il y a quelques temps. C'est vrai que ça bouge pas mal. Hein,
on essaye de faire venir les journalistes dans des voyages de presse, voilà, pour leur... faire découvrir donc de Paris ou d'ailleurs, et ils sont toujours extrêmement étonnés très positivement par la qualité, bon, à la fois du site mais aussi du territoire, hein, de ce territoire de la Gartempe, de la Vienne, je parle des rivières là, de l'Anglin, de la Creuse, qui font une espèce de concentration de rivières et de vallées quand même très très belles et qualitatif sur le plan environnemental. Donc effectivement, c'est un lieu culturel et patrimonial, mais on développe aussi un tourisme, et c'est le cas du Triangle d'Or du Poitou aussi. Hein, c'est
tout à fait avec...
C'est de faire un tourisme vert aussi, avec la randonnée, bien évidemment, le vélo... le canoë, etc.
Exactement. Donc, on parlait tout à l'heure des trois communes, à Chevigny, Angle, Sur-Anglin, Saint-Savin. On parle aussi un triangle, ben ça a trois sommets, ça a aussi trois côtés. C'est d'un côté entre Chevigny et Saint-Savin, donc l'ancienne voie romaine. C'est aussi du côté de Saint-Savin et Angle sur Anglin, donc la voie, enfin le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et Chevigny, Angle sur Anglin, vous avez donc le chemin de Saint-Martin. Des découvertes à faire en randonnée. Les balades à chemin, comme ça, Élodie, vous en faites régulièrement. Vous prenez votre vélo, votre voiture peut-être pas, mais vélo, les enfants, les deux filles à la main, et puis on y va.
Exactement.
Ça, c'est les choses
exactement.
Que vous aimez faire.
Là, elles sont d'un âge où c'est compliqué de les sortir de la maison et des écrans, mais ouais. Il faut, on se bat pour ça.
Okay. Adolescente
10 et 13.
Ah oui, en effet, c'est pas évident, quoi, qu'il y a les Terra Ventura.
Ah bah oui, ça fonctionne. Ah oui, oui bien sûr. Oui.
C'est un bon moyen.
Fonctionne très bien.
Oui. Un bon moyen de se promener, tout à fait, de faire découvrir. Il y en a aussi un, d'ailleurs, je crois, du côté de Saint-Savin, Terra Ventura.
Oui, il y a un Terra Ventura, et puis nous avons des livrets jeux, donc pour faire des visites plutôt adaptées pour les enfants. Et on prévoit aussi là une visite, à terme, je pense, prête pour l'été, une visite vraiment associant les parents et les enfants de l'abbaye, avec une dimension aussi de fabrication, de faire des choses à la fin de la visite, parce que les enfants aiment bien manipuler. Donc on est en train de réfléchir à ça aussi.
Tout à fait, beaucoup de choses à voir, à faire sur le secteur pour emmener les enfants et puis faire découvrir l'abbaye et le secteur. On le rappelle, 28 000 visiteurs l'an dernier.
Et oui, c'est...
Alors il y a encore une marge, on peut encore nettement progresser, mais c'est vrai que c'est déjà énorme. Je dis souvent, quand on regardait il y a quelques années, on était à Chauvigny, une trentaine de milliers de visiteurs par an, Angle-sur-Angle, à peu près la même chose, 23 000 donc pour l'abbaye. On s'aperçoit qu'un lieu classé au patrimoine mondial, c'est beaucoup plus, donc il y a énormément de choses à faire. Ce que vous faites bien d'ailleurs, depuis maintenant, combien de temps?
Depuis le mois de février 2024.
Là, c'est tout récent.
Donc, et puis c'est vrai que ce qu'on déjà, il nous a semblé important de rappeler que Saint-Savin est l'unique site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, l'unique site en tant que tel, hein, puisqu'après on a les chemins de Saint-Jacques,
oui,
c'est autre chose, c'est pas un site en tant que tel. Depuis 1983, donc ça, c'est quand même 40 ans, plus de 40 ans, et puis, ça on l'avait un petit peu oublié, donc on a vraiment beaucoup travaillé à rappeler cela.
Exactement, il me semble d'ailleurs qu'il y a quelques années, on avait l'église Saint-Hilaire à Poitiers qui était au patrimoine mondial et aussi en tant qu'église, et que elle a été retirée ensuite. Il y a des contraintes quand on est...
Je crois qu'elle est plutôt sur les chemins de
Aujourd'hui
Saint-Jacques,
sur les chemins, tout à fait, de Saint-Jacques. Ouais. Ouais. Il y a des contraintes, hein, puisque quand on a une abbaye comme ça, il y a des contraintes. Alors, on parle souvent d'éoliennes, mais ça c'est vrai que ça permet de protéger justement les paysages. À votre niveau, il y a des contraintes au niveau de l'entretien, certainement, de la restauration?
Alors la complexité à Saint-Savin, et on avait, je me souviens d'être venu ici avec monsieur le maire de Saint-Savin, oui. c'est que l'église, enfin l'abbaye est la propriété foncière de la commune de Saint-Savin, donc qui est une petite commune, hein, et c'est, on le redit toujours, c'est un poids financier extrêmement lourd. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup à trouver des partenaires, notamment privés, des fondations, du mécénat, pour justement accompagner la part financière de la commune, parce que qui est théoriquement obligée de mettre 20%, alors 20% sur un chantier de restauration ou même un entretien courant des mousses sur les toits, etc. Ça fait toujours des sommes assez conséquentes qui sont très lourdes pour le budget de la commune. Donc on travaille beaucoup justement à accompagner financièrement la commune pour évoluer. Et puis là, on est sur un travail de réflexion, j'en dirais pas plus, mais on a lancé vraiment une grande réflexion avec des partenaires publics et privés sur Saint-Savin 2030. Il y a un certain nombre de... Donc on est en train de travailler sur une étude qui va faire un diagnostic de tout ce qui devrait être amélioré, et il y a beaucoup de choses, hein, puisque voilà, les bâtiments historiques, ça vieillit, il faut toujours être vigilant, il faut toujours se mettre dans les pas de Prosper Mérimée, qui en 1835 est arrivé à Saint-Savin, et là s'est battu corps et âme pour sauvegarder l'église et le site, qui était certainement en très très mauvais état.
Tout à fait, des sites donc à photographier, certainement user et abuser de la photographie pour ces sites. Élodie, par rapport justement à ces visites de lieux historiques, c'est facile de prendre des photos dans les lieux un peu sombres, et puis surtout de les éditer après. On a le droit comme ça, je parle pour nos auditeurs, hein, qui vont sur les réseaux sociaux, qui balancent des images un peu à l'emporte-pièce. C'est facile, on a le droit de les mettre sur les réseaux
tout
sociaux.
Dépend des sites, je pense. Chez nous, je pense que c'est... je sais, dans votre site, c'est possible de les partager.
Oui,
il n'y a pas
de problème.
Après, voilà, tout dépend. Faire attention à chaque entrée de site. Généralement, c'est inscrit de toute façon s'il y a une interdiction.
Et si demain, on passe devant un lieu, on a le droit de prendre une photo d'extérieur. Je veux dire, si quelqu'un passait dans une rue, on a tout à fait le droit de la faire et de la publier sans problème, quoi. Je suppose.
Oui, voilà.
Oui, il n'y a aucune interdiction de ce côté-là. Quoi.
Il faut surtout partager des photographies qu'on a fait soi-même.
Exactement.
Ce qui est plus problématique, c'est de partager parfois des photographies qu'on n'a pas fait soi-même, mais parce qu'il y a des notions de droit d'auteur qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis, il faut quand même faire attention maintenant s'il y a des personnes.
Oui.
Oui. Quand on fait des photos, parce que ça devient de plus en plus compliqué.
Voilà.
Ça.
Puis c'est vrai, se méfier de plus en plus, hein, de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, avec l'IA qui intervient, on est capable de vous mettre n'importe qui dans les visites. On pourrait vous faire visiter l'abbaye par Trump ou autre, mais c'est pas le cas. Vous avez eu une ministre il y a quelque temps. Hein.
Voilà, nous avons eu madame la ministre de la Culture, qui nous a honoré de sa visite.
Qui est venue à ce moment-là, Rachida Dati, hein, qui est passée aussi, me semble-t-il, par Chauvigny. à ce moment-là, peut-être par Montmorillon plutôt.
Non, qui est passé surtout à Montmorillon pour effectivement sur le sujet de la Maison Dieu, donc qui est allé aussi à Notre-Dame.
À Poitiers, tout à fait, qui a visité Notre-Dame. Des visites comme ça, ben, il y en aura certainement d'autres. Hein, c'est ce qui amène, les visites amènent les visiteurs. Élodie, dans le choix de vos 111 sites, ça a été compliqué d'arriver à choisir sans vouloir prioriser certains. Je veux dire, c'est pas, il y a peut-être des gens qui vous disent « Ah mince, j'aurais préféré que vous parliez aussi de mon secteur ». Des secteurs oubliés peut-être, non ?
Il y a des personnes qui m'ont effectivement évoqué des lieux que je ne connais pas et qui ne sont pas dans le livre. Mais c'est vrai qu'il fallait que ça soit vraiment diversifié et localisé vraiment pas au même endroit, vraiment que ça soit sur tout le territoire.
Voilà, c'est vrai que moi, dès que je l'ai ouvert, hein, j'ai cherché l'appui en fait. Hein, je me suis dit, puis je ne l'ai pas trouvé, c'est pas grave. J'ai forcément cherché, chacun a cherché un peu son secteur, ça vous obligera à en faire un deuxième. Rien ne vous interdit d'en faire
un. Ça peut être que sur la Vienne, par exemple.
Exactement, oui, tout à fait. Il y en a quelques-uns qui sortent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur la Vienne, sur le Poitou et autres, de cette passion que vous avez en commun pour le patrimoine, pour les beaux paysages. C'est facile aujourd'hui d'être photographe indépendant comme ça par rapport à l'activité. On a l'impression quelquefois que c'est un peu compliqué quand même de vivre de son métier.
Oui. Après, il faut vraiment être passionné, rien lâcher. Et moi, c'est vrai que je me suis divertie un petit peu dans plusieurs styles de photos différentes. Donc, c'est ce qui fait que je fonctionne bien aujourd'hui.
Exactement. Vous faites de la photo de mariage hein, dans des lieux insolites avec des drones. Même j'ai vu des reportages avec des drones. Mm. Beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça c'est intéressant faire rentrer un drone. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était France 2 qui était venu à Chauvigny qui avait fait rentrer le drone dans la collégiale. C'est vrai que ça fait des images magnifiques quoi, en fait. Hein.
Ah oui, alors après, dans des lieux intérieurs, moi, je n'ai jamais fait.
Vous l'avez fait.
Et après, il faut certaines autorisations de vol suivant les endroits. Mm-hmm. On peut pas, c'est vraiment réglementé, on ne peut pas tout faire.
J'ai vu un mariage en extérieur avec une ancienne abbaye. C'était à quel endroit ? C'était du côté de Charroux
Que j'ai fait moi-même ?
Il me semble, enfin, c'était remis sur votre page en tout
alors,
cas.
Alors, ça doit être le château de verre de Saint-Georges-les-Baillargeaux.
Ah, c'est possible. C'est possible, tout à fait. Ouais. Un lieu magnifique, d'ailleurs.
Un mariage là-bas, oui.
Oui, un très beau château. Je l'ai visité il y a maintenant quelques années. J'étais enfant. Je ne vous dirai pas depuis combien de temps. Je n'ai pas mis les pieds dans le château. Mais c'est vrai qu'il y a un patrimoine exceptionnel aussi. Très beau patrimoine. Qu'il s'agisse de Saint-Georges, qu'il s'agisse de Dissay aussi, château de Dissay.
Oui,
pour des photos
sûr.
De mariage. Oui. Ça peut être un très bel endroit à visiter. À propos d'endroits à visiter, vous avez des liens, Jean-Luc, avec le Futuroscope ou autre, hein, pour amener du public ?
Alors justement, on est en train de créer des liens, oui, des partenariats avec notamment des échanges d'entrées gratuites. Alors c'est Isabelle qui s'occupe de tout ça parce qu'elle connaît très très bien tous les interlocuteurs. Mais bien évidemment, pour nous, c'est une évidence. On aurait ne serait-ce que 2 ou 3% du public du Futuroscope qui passerait par Saint-Savin, ça serait déjà très très bien.
Exactement, on est à 2,5 millions cette année,
voilà,
je crois.
Donc c'est peut-être plutôt intéressant pour nous que pour eux, mais en tout cas, puis on est présent aussi sur le site, hein, je crois dans le nouveau film aussi, là, sur la Vienne. Mm-hmm. Donc, on est en train de créer des liens. On a aussi des liens avec l'Arena, notamment lorsqu'il y a et le Palais des Congrès. Quand il y a des congrès, on accueille, les congressistes viennent parfois en couple. Et donc, les conjoints ne sont pas forcément toujours concernés par tous les échanges. Donc, on organise des visites. On avait d'ailleurs organisé une visite, là, je me souviens très bien, de Saint-Savin, d'Angle, de Chauvigny, justement, à destination de conjoints de congressistes.
Oui, notamment de l'avenue des maires de France. Hein,
oui, c'est ça, je crois que c'est ça.
C'est ça, j'ai vu ça à ce moment-là. Beaucoup d'endroits à visiter. Alors, on parle du Triangle d'Or depuis tout à l'heure, il n'y a pas que ça, mais c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour aller vers la Vallée des Fresques, vers Montmorillon, vers la Roche-Posée.
Et toute la Nouvelle-Aquitaine, en quelque sorte, puisqu'on est effectivement à la partie nord-est de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Donc, on est tout près de la Touraine, on est tout près du Berry, on est tout près du Limousin. Enfin, le Limousin, ça fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, effectivement, il y a ce côté porte d'entrée vers le sud, le sud-Vienne, la Charente ensuite.
Exactement, cette façon de quitter l'autoroute, hein, prendre les chemins de traverse, ça tombe bien, c'est l'émission, et puis de partir un peu à la découverte de ces endroits magnifiques, hein, qui sont en dehors des sentiers battus, et puis surtout, on s'aperçoit qu'il y a une véritable vie, hein, dans ce secteur, avec des gens qui sont adorables. Moi, j'ai été impressionné que les gens nous disent que, bah, c'est vrai que sur le secteur, sur la Vienne, on a une mentalité qui est encore très bonne, hein, par rapport à certains endroits de France ou de grandes villes, où c'est un peu plus compliqué, donc à découvrir le Poitou dans son ensemble, hein, que ce soit la Vienne, que ce soit les Deux-Sèvres et la Vendée. On en parlait tout à l'heure, un salut tout particulier à M. De Villiers, s'il veut venir un jour dans l'émission, je serai très heureux pour nous parler un peu de son parc. J'essaierai de l'inviter, on verra bien s'il me répond, enfin, j'ai aucun doute sur la réponse, mais voilà. Au niveau des photos, hein, on l'a dit, vous avez essayé d'aller un peu partout sur la Vienne. Il y a des contraintes, hein, par rapport à la météo à ce moment-là, hein, c'est pas évident.
Ah oui, et là, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans, et c'était vraiment, il y a une année, était vraiment très très compliquée. Mais il fallait avancer malgré tout dans l'étape du processus qu'il fallait rendre les chapitres à temps. Et ça a un petit peu été décalé à cause de la mauvaise météo, effectivement.
Et ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi qu'il y a des très belles photos, hein, qui peuvent se faire sous la pluie, avec des éclairages peut-être différents. Mais ouais, c'est forcément, si on veut montrer une belle image du Poitou, il vaut mieux montrer du soleil, quoi.
Oui, c'est ça.
Vous avez réalisé comment? C'est à chaque fois que vous êtes parti sur un lieu une journée, ou vous avez fait un ensemble?
Même, oui, un petit road trip de notre département, oui. Ça a configuré plusieurs lieux à chaque fois, en partance à la journée ou même au week-end.
Parmi tous les lieux que vous avez pu photographier et visiter, celui qui vous a plus interloqué, intéressé, plu?
Il y en a beaucoup, c'est dur d'en choisir un.
Vous avez vexé tous les 110 autres.
C'est ça. Non, mais parmi l'ancien Poitou, il y a aussi des petites communes qui étaient rattachées vraiment à la frontière, par exemple de la Vienne, comme Rochechouart, qui a été construit sur un cratère.
D'accord, oui. De beaux endroits. Moi, je me rappelle avoir fait du côté de Thouars ou les environs, hein, des balades avec le Terra Aventura, et on se retrouvait sur des endroits un peu rocheux. On avait l'impression d'être un peu à la montagne. Alors, je me souviens plus du village, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a de très beaux endroits malgré tout, hein, dans les Deux-Sèvres.
Oui,
on
n'a
pas l'impression.
Hein. Exactement, c'est vrai.
Même Parthenay est une belle ville d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. J'étais très surprise aussi de la cascade aux pommiers à côté de Thouars, où c'est vraiment la vallée est vraiment impressionnante.
Voilà, et on file ensuite du côté des Sables d'Olonne pour rejoindre la mer, le départ du Vendée Globe, hein, qui se fait là-bas. Alors, il n'y avait pas le Vendée Globe le jour où vous êtes allé, forcément.
Non.
Voilà, très bel endroit pour celles et ceux qui veulent y aller. Je ne sais plus, prochainement d'ailleurs, hein, peut-être, il faudrait regarder le prochain départ pour le Vendée Globe. Il y a tellement d'endroits à visiter, à découvrir dans le Poitou. Et dans la Vienne, puisqu'on parle de la Vienne, on parlait aussi de l'abbaye et puis du Triangle d'Or. Beaucoup d'endroits, avec la réouverture donc de l'abbaye prochainement, on l'a dit, hein, début février peut-être.
Je vais vous dire ça précisément.
Ouais, fermé, donc pour...
C'est pas...
On le comprend, l'hiver, hein, c'est un peu froid de toute façon.
Hein. Oui, c'est... Puis bien, il y a aussi c'est pour des raisons aussi écologiques, hein, c'est-à-dire des programmes de... sobriété, donc là on réouvre, vous voyez, j'ai même pas moi-même les dates précises, voilà, bonne nouvelle, elle réouvre ses portes le 7 février.
Le 7 février,
voilà.
Pile poil pour les vacances scolaires.
Absolument.
Ah oui, c'est
donc,
possible, tout à fait, oui.
Ça donne des belles idées de voilà. Sortie.
Exactement.
Avec justement des visites musicales, des escape games pendant ces périodes de vacances scolaires.
Écoutez, on va se faire une dernière pause musicale, tiens, avant d'apporter un peu plus sur la photo avec vous, Elodie. C'est une chanson qu'on entend peut-être à un moment des mariages, ou c'est des photographies de mariage. C'est Stiletto, hein, qui chante « Faut que tu m'aimes ».
Faut que tu m'aimes, car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. Je la trouve jolie ma voix et mes poèmes. Quand même, faut que tu m'aimes. Faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il n'y aura pas de problème. Que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment. Vous êtes dans le coup, j'ai peur de plus être la même. Que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes. bloqué, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Faut que tu m'aimes,
sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes,
moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes, sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes, quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes, quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes, quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides, quand je me sens comme une merde. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue.
Faut que tu m'aimes,
sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes,
moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Faut que tu m'aimes,
sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes,
moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque que les pouces s'emballent les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super?
Super.
Pourquoi j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y'a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça.
Faut que tu m'aimes,
sinon je fais quoi?
Faut que tu m'aimes,
moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
sinon je perds pied, je sais plus où aller, ni comment je m'appelle.
Faut que tu m'aimes,
sinon je fais quoi? Moi j'y arrive pas.
Faut que tu m'aimes,
c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même, plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Faut que tu m'aimes, donc une chanson peut-être destinée, Élodie, à votre époux, hein, lui rappeler un peu quelquefois. Un petit bisou, une pensée envers son épouse et la bienvenue.
Bien sûr.
Je le dis aussi pour la mienne qui doit se trouver, alors qui m'écoute peut-être pas en ce moment, qui doit se trouver sur la route actuellement, entre Lussac et Chauvigny. On parlait à l'instant donc avec vous deux, donc avec vous Élodie et avec vous Jean-Luc, de patrimoine. La photo, c'est aussi, Élodie, votre domaine, forcément, puisque vous êtes photographe. La photo de mariage, le carnet de rendez-vous se remplit là actuellement. Je suppose que c'est compliqué, hein, d'avoir des photographes, hein, quand on est jeune marié. On s'y prend combien de temps à l'avance maintenant?
Ça peut être un an à l'avance, ouais. Ça se remplit vite et c'est souvent les mêmes dates parce que l'année du mariage est assez courte. Mais
Exactement. Pour trouver vos coordonnées, on peut peut-être donner votre numéro de téléphone d'ailleurs, puisque j'ai des auditeurs qui m'ont demandé par SMS.
Ah d'accord, donc on peut me joindre au 06 72 68 65 00.
En ce qui concerne le tarif, on vous appelle, on vous contacte sur les réseaux sociaux, puisque c'est en fonction, je suppose, à la demande. On peut avoir vous proposez quoi? C'est des photos, un suivi, un reportage complet du mariage?
Oui, concernant le mariage, oui. Ça varie selon les demandes, si c'est des préparatifs jusqu'à la soirée ou simplement cérémonie, vin d'honneur, tout est possible.
Voilà, donc ça c'est une part de votre activité. Autre, c'est peut-être les écoles. Vous faites aussi des photos pour les...
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, je fais pas de photos d'école, pas de photos de grossesse. J'ai commencé au tout début avec des photos de paysages, donc en mettant en avant les territoires. J'ai travaillé avec l'Office du tourisme de La Roche-Posay. Qui m'a demandé de valoriser son territoire sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram notamment, hello.di.86, où il souhaitait mettre en avant une façon de pouvoir séjourner sur leur territoire autrement que en mettant en avant le centre thermal. Donc on a pu partager des activités en famille, donc notamment le Terraventura, mais aussi des activités du canoë, il y avait plein de...
Oh, on a l'hippodrome aussi là-bas, sur la Roche-Posay.
Oui, c'est vrai.
On a la salle de spectacle, pas mal de choses à voir. Il n'y a, a pas que justement du thermalisme. Hein,
exactement.
Et je crois qu'il y a besoin de revaloriser un peu tout ça, puisque c'est vrai que le thermalisme est en chute libre, mais en baisse actuellement. Et donc, il faut amener les gens aujourd'hui à venir pour une autre raison. Venir, c'est aussi donc, venir au sein du Triangle d'Or, c'est venir à la Roche-Posay. Pas très loin d'ici, d'ailleurs, on a la Brenne, qui est un bel endroit endroit, hein, dans l'Indre. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce secteur des
étangs.
Il y a
longtemps, je me suis dit, il faut découvrir ce territoire que je n'ai toujours pas encore fait, mais c'est sur ma liste.
Allez-y, parce que moi, pour tout vous dire, j'y travaille toute la semaine, en fait, hein, en dehors, et c'est vraiment mon secteur. C'est vraiment des magnifiques étangs à découvrir.
C'est vraiment très, très, très étendu. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier qui est plus découverte ?
Alors, vous allez sur Saint-Pierre. Mézières-en-Brenne, pardon. Voilà, vous allez sur Mézières-en-Brenne, Saint-Michel-en-Brenne, et puis là, vous avez donc tout ce qui est après explication, parce qu'il y a énormément de panneaux. Il y a surtout les offices de tourisme. Vous avez la maison de la Brenne, hein, qui peut aussi vous accueillir. Vous avez le château qui est fermé actuellement. Hein, alors j'ai plus le nom, mais j'ai vu les responsables au téléphone il y a quelque temps. Le château du Blanc, hein, qui raconte aussi l'histoire de la Brenne. Beaucoup d'endroits, hein, autour de Ronet. Alors Ronet, c'est la base militaire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'étangs autour de Ronet à voir. On est allé nous faire des balades et il y a pas mal de choses. Il y a d'ailleurs une randonnée, si ça vous intéresse. Qui doit faire une cinquantaine de kilomètres. Hein. C'est l'été, c'est au mois d'août, sur 3 jours, à pied, à cheval ou à vélo. Et c'est organisé donc par monsieur le maire de Mézières-en-Brenne, qui le fait. Voilà. Il y a le passage des oiseaux migrateurs, surtout, hein, avec les grues actuellement qui repassent, et puis d'autres encore. Non, c'est vraiment un endroit magnifique que je ne connaissais pas moi non plus. Hein. C'est vrai qu'il y a une véritable frontière, on passe Saint-Savin, et puis derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Eux nous connaissent par contre, hein, c'est vrai que c'est étonnant, mais quand vous êtes au Blanc, vous parlez très facilement de Saint-Savin, vous parlez très facilement de Poitiers, parce qu'eux viennent régulièrement, et c'est vrai que nous, on a une réticence, ou je ne sais pas, une frontière qui s'est faite naturellement avec ces endroits-là. Voilà. On parlait à l'instant de randonnée et autres, mais on parle de votre activité, de photos. J'ai vu que vous faisiez aussi des photos d'iris, ça, c'est une mode ça maintenant. Hein. La photo de l'œil,
C'est devenu assez tendance parce que c'est vraiment unique et l'originalité de cette photo fait que ça plaît beaucoup.
C'est pas retouché parce que les couleurs sont vraiment celles de l'œil ou
Alors on fait la photographie avec beaucoup de luminosité très proche de l'œil, ouais. Et c'est ce qui donne justement cette couleur et cette structure qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et c'est comme quand vous êtes dans une pièce sombre ou en plein soleil, la couleur des yeux change.
D'accord. Et là, vous prenez une photo de près, ça doit faire mal, non ? C'est un peu quand on...
Non,
pas du tout.
Ça fait pas du tout mal. Ça touche pas l'œil. Et la lumière est constante. Ce n'est pas un flash qui. Voilà. Donc il y a pas. Ça fait pas mal.
Vous le faites chez les particuliers ou vous déplacez ?
Alors, comme je n'ai pas de studio fixe, je me déplace à domicile pour faire les prises de vue. Ah. Mais également, j'organise des événements pour pouvoir proposer cela. Ça peut être des salons, les marchés de Noël. Mais aussi, je l'ai aussi fait dans chez un opticien. Mmh. On a créé un événement ensemble. Du coup, ça faisait vraiment une animation. Donc, à Chauvigny, j'ai jamais fait. Uh-huh. Et j'ai beaucoup de demandes.
Ah oui, certainement.
Oui.
Il suffit de trouver la salle, mais on doit se trouver facilement.
S'il y a quelqu'un qui aime bien ce concept, pourquoi pas.
Exactement, il y a beaucoup d'endroits pour pouvoir le faire. On parlait justement de salons et autres. Vous avez fait un peu les marchés de Noël il y a quelques semaines maintenant, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. J'étais du côté de Montmorillon, d'Angers-Saint-Romain, autour de Poitiers également. J'ai sillonné un petit peu la Vienne.
Ça peut être une occasion, tiens, Jean-Luc Dorchu, pour l'abbaye de Saint-Savin. Il me semble qu'à une époque, il y avait une vie véritablement dans les églises. On ne venait pas à l'église simplement pour prier. C'était vraiment ouvert au public. Faire rentrer les marchands dans le temple, je veux dire, c'est peut-être pas la bonne chose, mais autour, en tout cas, ça peut être une occasion de faire valoriser.
Bon, alors l'église, elle est paroissiale, etc. Ça me paraît un peu compliqué. La commune organise à Noël, donc un marché plutôt des créateurs. Après, je pense que c'est davantage justement la mission des communes d'organiser ce genre d'événements que d'un établissement comme le PCC qui gère vraiment l'abbaye, qui la valorise. Il doit aussi la maintenir dans un certain niveau lié à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous parliez tout à l'heure de contraintes liées à cette inscription. Donc, effectivement, le fait que dans la co-visibilité, comme on dit, il n'y ait pas un certain nombre d'équipements tels éoliennes, etc. Mais c'est aussi de maintenir, effectivement, un certain niveau, non pas que je sois contre les marchés de Noël, bien au contraire, mais je pense que c'est pas tout à fait notre mission, c'est davantage la mission des collectivités, d'animer la vie locale, et c'est un peu de ce positionnement qu'on a pris. Bien sûr, on travaille en partenariat avec la commune.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, on va bientôt se quitter. On rappelle vos coordonnées, Élodie. Donc pour le site, c'est hello.di. 86.
Oui, la page Instagram.
Ouais, la page Instagram, c'est ça. Le numéro de téléphone, 06 72 68 65 00.
Tout à fait.
On le remettra sur le site et puis on mettra aussi sur Rando 86. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir dans le secteur. Moi, je relance un appel, tiens, par rapport aux émissions à venir. Si Madame Monconduit, donc Madame le maire de Poitiers, veut bien venir nous rejoindre un samedi matin. On a eu pour les élections, donc déjà, c'est deux de ses concurrents. Si elle veut venir, elle est invitée. Elle le sait d'ailleurs, hein, puisque j'ai déjà fait deux propositions à ses services. On attend son appel. On ne sait jamais avant les élections. Voilà pour ce qu'il en est. J'aimerais lui parler à ce moment-là, justement, des futures journées du patrimoine qui se dérouleront en septembre, où j'avais proposé aux différents candidats de faire un bus du patrimoine qui partirait de Poitiers avec Vitalis et qui viendrait donc couvrir Grand Poitiers, parce qu'on parle aujourd'hui de Grand Poitiers. Grand Poitiers, c'est 70 km de long, donc c'est énorme. On s'aperçoit que les gens de l'Appui ne connaissent pas forcément ceux qui sont du côté de Lusignan. C'est une occasion peut-être, au moment des journées du patrimoine, de découvrir ce secteur et puis peut-être un jour de l'emmener aussi sur le triangle d'or complet avec Saint-Savin et Angle-sur-Anglin. L'émission se termine, je vous remercie d'être venu. Une petite chose encore, Jean-Luc Dorfus,
peut-être. Juste pour les personnes qui veulent participer, donc
en
prêtant un objet, il suffit d'appeler l'abbaye au 05 49 84 30 00. Et puis sinon, par mail, éventuellement avec une photo, hein, contact@abbaye-saint-savin.fr.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci tous les deux.
Merci de nous avoir reçus.
Merci de l'émission rediffusée mercredi. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.